Il a tellement de cordes à son acte que tous les 6 mois, on se posait la question de l'inviter. Oui, mais pour quel sujet ? Et finalement, notre série sur les situations d'urgence est peut-être là où il a une des expertises les plus exclusives. Participant chaque année aux exercices organisés par l'ONU dans les Caraïbes sur les tsunamis, Caraïbes Wave, nous recevons donc Gaël Musquet alias Radzia, cofondateur de l'association OpenStreetMap France, cofondateur de l'association Hackers Against Natural Disasters, radio amateur sous l'indicatif F4HXS, chevalier de l'Ordre National du Mérite, hacker citoyen français le plus passionnant selon Libération, No Life, Le Monde, France Inter, Street Press, et j'en passe, et ça va être dur d'être à leur niveau, point de vue de leurs questions.
CPU, carré, petit, utile.
Gaël, quel a été ton parcours pour devenir hacker ? T'es plus formation ou plus autodidacte ?
Alors, moi, je suis plutôt autodidacte. Je suis un jeune Guadeloupéen encore, quelques mois. Je suis encore dans ma 40e année, encore quelques jours même.
Bah, joyeux anniversaire en avance.
Ouais, merci. Et en fait, je suis né en Guadeloupe, qui est un territoire passionnant, passionné, brûlant, avec un volcan quand même qui est à l'origine, qui a la genèse en fait de l'île, et qui malheureusement est dans la période que l'on vit actuellement, donc au début d'automne, fin d'été, balayé par des ouragans. Donc j'ai été victime enfant d'un ouragan, l'ouragan Hugo, en 1989.
Oui.
Et c'est un événement qui m'a pas traumatisé parce que mon père était banquier et retraité. Il était banquier, il était pasteur. Donc du coup, c'est vraiment une personne qui nous a préparé en famille à cette catastrophe naturelle. Notre maison était assurée. Et c'est vrai que le lendemain, après avoir été se réfugier pendant l'œil de l'ouragan chez les voisins, mon père nous a conté et a tenu à nous rassurer en nous disant, ben voilà, qu'après avoir perdu une partie de la maison qui a été détruite, qu'on allait reconstruire, que les assurances allaient s'en occuper. C'est un peu la genèse de mon engagement, si tu veux. C'est vraiment ce qui a fondé mon envie d'aider mon île déjà à faire face à ces catastrophes naturelles là, et on était en 1989, donc tu te doutes bien qu'entre-temps il y a eu énormément de catastrophes par la suite. Et qu'ensuite, bah, mon arrivée ici en 2001, je suis arrivé le 13 septembre 2001. Donc tu vois qu'il y a quand même parfois un alignement négatif des planètes entre le 11 septembre et ce qui s'est passé à ZF. Ben je suis arrivé dans cette période-là dans l'Hexagone, pour faire des études de météorologue. C'est ma formation initiale, même si j'ai pas été au bout. Mais de formation, je suis météorologue et j'ai appris à fabriquer des capteurs météorologiques. D'où la réponse à ta question. Je suis plutôt, du coup, autodidacte plutôt que formation. Voilà.
Pourquoi t'es-tu intéressé aux problématiques d'alerte en sécurité civile ? On comprend, c'est aussi bien ce que tu as vécu, mais il y avait quelque chose d'important qui te semblait à faire ?
Oui, je me suis intéressé à ces questions-là à la suite du séisme en Haïti. Janvier 2010, on a un séisme qui fait des centaines de milliers de victimes. Je suis contributeur OpenStreetMap, d'un projet de cartographie libre. Et on se rend compte à ce moment-là que les données d'OpenStreetMap pouvaient aider les ONG à apporter assistance aux populations, qu'on pouvait utiliser ces données d'OpenStreetMap pour soutenir des gouvernements, des armées, des ONG qui étaient mobilisées sur le terrain. Et j'étais moi-même jeune père, mon fils est né en 2007, ma fille en 2009. Donc en 2010, je suis père de 2 jeunes enfants, donc c'est vrai que je me projette dans ce territoire que je connais, qui est pas éloigné culturellement, géographiquement de l'île qui m'a vu naître. Et surtout, je suis extrêmement choqué en fait d'entendre des personnes dans ma langue maternelle, le créole, appeler leurs enfants dans les décombres. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et je me rends compte aussi à ce moment-là à quel point le numérique, Internet, était important à ce moment-là parce que c'était le meilleur moyen d'avoir des nouvelles de ses proches, de porter assistance aux populations, de communiquer, de remonter de l'information, d'apporter notre aide. Donc c'est vraiment à ce moment-là, après 1989, mon événement fondateur, l'ouragan Hugo, c'est vrai que ce séisme en Haïti en janvier 2010 a été un deuxième déclic pour m'engager. C'est-à-dire que là, je fais pas juste que m'y intéresser. Je m'engage aussi auprès d'ONG, auprès de la Fondation de France, auprès d'OpenStreetMap France. Je monte une association. qui me permet justement d'être actif dans la zone qui m'a vu naître pour faire face à ces catastrophes qui sont survenues après ce séisme d'Haïti.
Durant cette interview, on va parler spécifiquement d'un message court texte, les SMS CIBI, qui ne sont pas exactement ce que les SMS sont connus par le grand public, c'est-à-dire un système unicast, mais un vrai système broadcast, un standard qui a été mis en place dans la norme GSM en 1996. Je te laisse en parler car tu t'y connais sûrement mieux que moi, et pourtant je m'intéresse au sujet depuis 2001.
Alors, effectivement, on a, dès la conception des réseaux cellulaires, l'ETSI, le 3GPP, toutes ces organisations ont voulu normaliser une manière de prévenir les populations et les parties prenantes à la sécurité civile qu'il se passait quelque chose de grave. Et donc l'ETSI, qui est à Sofia Antipolis, effectivement, dès 1996, expérimenté en 1997, normalise justement ces normes d'alerte avec l'encodage des caractères, le nombre de caractères maximum, les modalités de transport. On est vraiment sur quelque chose de normatif. Évidemment, quand ça a été fait, je me mets à la place des ingénieurs, on espère toujours que ces protocoles ne vont pas servir, mais on sait à quel point aujourd'hui ils sont vitaux. Et toutes les nouvelles évolutions des normes de télécommunications cellulaires, et pas que, ont augmenté en fait les capacités des réseaux de téléphonie mobile à router, distribuer des messages d'alerte, donc là le SMS CB, mais on a d'autres protocoles qui permettent d'alerter les populations qu'il va se passer quelque chose de grave ou qu'il se passe quelque chose de grave ou que la phase d'alerte, la phase d'urgence est terminée. Parce qu'on pense souvent aux alertes, mais il y a aussi les mécanismes de levée d'alerte. Et c'est vrai que depuis 1997, malheureusement, la France est un des rares pays à ne pas avoir déployé sur ses réseaux téléphonie mobile ce protocole. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails historiques du déploiement de cette norme-là, mais elle est aujourd'hui utilisée en Corée. Elle a été améliorée par les Japonais, notamment sur les problématiques de tsunami et de séisme, ce qui permet de définir, grosso merdo, on va être sur 4 types d'alertes, donc le niveau extrême, le EU Level 1, ce qui nous concerne en Europe, le EU Level 2, le EU Level 3. Donc, le Level 1, il est plutôt dédié au président. Donc, c'est une alerte qui est vraiment extrême et qui est vraiment dédiée à la présidence, à un chef de gouvernement, un chef d'État, qui concerne vraiment les alertes de niveau national. Le EU Level 2, il va être aussi extrême, mais moins grave que le niveau national. Et en général, on va utiliser ce type d'alerte-là sur des inondations, par exemple, ou des grandes tempêtes qui vont toucher une région ou une sous-région. Le EU Level 3, le 3, il est plutôt dédié, lui, à des alertes, on va dire, départementales, voire plus localisées à l'échelle d'une ville ou d'une métropole, pour pouvoir, évidemment, prévenir les populations. Donc ça, c'est les 3 niveaux d'alerte. J'ai fait un grand bond en avant sur la granularité en fait de ces niveaux d'alerte. Et en fait, on a 3 autres niveaux. Le TWS, qui est une norme qui a été rajoutée pour pouvoir traiter uniquement les problématiques de tsunami et de séisme. Je fais une petite digression, mais le rapport récent des Nations Unies sur les 20 dernières années, 8% des catastrophes naturelles ont engendré 58% des morts. Et ces 8% de catastrophes, ce sont des séismes et des tsunamis. Donc entre 2000 et 2019, les tsunamis et les séismes ont provoqué la mort de plus de 700 000 personnes dans le monde, ce qui représente 58% des morts de catastrophes naturelles. Donc on se rend compte à quel point cette alerte qui est particulière des séismes et des tsunamis est aussi importante, à la fois au Japon, évidemment, qui est un peu à l'origine de l'évolution de cette norme SMS-CB sur ce champ-là, en Indonésie, puisqu'on a connu un tsunami assez grave en 2004, mais aussi, et là peu de gens le savent, sur les côtes méditerranéennes, les côtes atlantiques, à partir du moment où on est en bord de mer, on est exposé à un risque de tsunami, où qu'on soit dans le monde. Et le Vésuve, l'Etna, le Stromboli, le Cumbre Vieja, tous ces volcans, alors les 3 premiers qui sont en Méditerranée et le dernier dans l'océan Atlantique, représentent une menace sismique, volcanique et évidemment tsunami de submersion sur les côtes européennes. Il faut qu'on l'ait en tête, le dernier séisme qui a frappé massivement l'Europe en 1908, donc c'est la catastrophe de Messine, qui a ensuite entraîné et engendré un tsunami, c'est plus de 50 000 morts en Europe, en Italie. Donc c'est très important en fait hein, d'être conscient que ces catastrophes peuvent survenir aussi en Europe. Et enfin, deux derniers niveaux, l'alerte Amber, qui est l'alerte enlèvement, qui permet en fait de traiter en fait les problématiques d'enlèvement d'enfants. Hein. Donc c'est notre fameuse alerte enlèvement qui se fait sur d'autres médias. On a sur la téléphonie mobile des capacités d'alerte enlèvement. Et le dernier, évidemment, ce sont les niveaux d'alerte qui concernent les exercices. Donc on voit bien que les normes ont permis d'évoluer. Je parlais donc juste avant qu'il n'y a pas que la téléphonie mobile. Je me permets d'ailleurs du coup de parler un petit peu d'écologie. On a vilipendé un peu la 5G. On se rend pas toujours compte que la téléphonie mobile, c'est pas que de l'accès Internet, c'est pas que du divertissement. Ce sont aussi ces protocoles d'urgence dont on aura extrêmement besoin dans les années à venir, les mois qui viennent, les années à venir, parce que face au réchauffement climatique, face à des dangers géologiques qui n'ont rien à voir avec le climat, face à des dangers technologiques comme AZF, mais on aura besoin de prévenir massivement les populations, et cela, quelles que soient les modalités de distribution. Donc là, la particularité, comme tu disais, du SMSCB, enfin du cell broadcast, c'est que même si on n'est pas connecté sur son opérateur, mais qu'on capte un réseau qui diffuse cette alerte, on va recevoir l'alerte. Même si on n'est pas dans son pays d'origine, mais qu'on est touriste, on va recevoir cette alerte. Et enfin, même si on n'a pas forcément de carte SIM dans son téléphone, on va recevoir cette alerte. Donc, c'est montrer un peu toute la capacité de ces réseaux qui se modernisent, hein, de router et de distribuer une alerte. Et enfin, on peut parler des deux prochains réseaux numériques qui vont être déployés. Donc, le DAB+, justement, qui est utilisé...
On est dessus, voilà.
Voilà.
On est dessus, sachant qu'effectivement, il y avait un volet sur le RDS qui existe, donc sur une sous-porteuse de la FM qui permettait justement de switcher sur une radio d'information et de forcer le switch, même si on l'a pas demandé, dans le cas d'une alerte réelle. Et effectivement, il y a une transposition dans le DAB+. Mais promis, radio éphémère ne l'utilisera pas pour passer du rail dans les oreilles.
Alors, et là-dessus, je profite de ça pour rebondir, c'est que on voit aussi l'utilité des radios associatives parce que, en complément du RDS, comme tu le disais très bien, le DAB+ a deux mécanismes d'alerte qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus riches. Donc, on a l'Emergency Warning Functionality qui a été développé par l'Institut Fraunhofer en Allemagne, qui a été utilisé lors d'exercices en zone blanche sur des incidents et des exercices ferroviaires. Et on voit bien la possibilité, le potentiel de ces réseaux DAB+, de relayer des alertes dans des zones où on n'a pas forcément accès à des réseaux de téléphonie mobile. Et donc, ça peut être un super réseau, un très bon support, un très bon vecteur d'alerte des populations avec du texte, des mignonnettes qui permettent d'afficher des données cartographiques, par exemple, sur la position des personnes qui devraient se confiner ou appliquer une consigne particulière en cas de risque. Et évidemment, des fonctionnalités sonores, hein, puisqu'on peut avoir des sons particuliers qui permettent d'attirer l'attention de l'auditeur sur des dangers auxquels il est exposé. On a l'Emergency Warning System, EWS, toujours dans ces normes définies par l'ETSI, hein, c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on a sur notre sol français un organisme qui normalise un peu tout ça, qui synthétise tous ces travaux. Et cette norme EWS est aussi disponible sur la TNT, puisque d'ici 2023-24, tous les réseaux de télévision numérique terrestre devront migrer au DVB-T2.
Oui.
Qui est la nouvelle norme de télévision numérique terrestre qui devrait être déployée sur l'ensemble du territoire national.
Donc, je croyais que c'était juste la modulation, donc il y a des signaux en fait d'information d'alerte dessus, d'accord.
Tout à fait. En gros, on a l'opportunité, et là c'est vraiment un appel que je lance hein, à la fois aux autorités, mais aussi aux différentes radios et télévisions régionales, associatives et locales, même si évidemment rien n'empêche de grands réseaux nationaux de se pencher sur ce sujet-là, puisqu'ils font partie et font l'objet aussi hein, de conventions avec le ministère de l'Intérieur en matière d'alerte des populations. On va déployer dans les 3 années à venir 3 réseaux numériques qui seront autant d'opportunités, de vecteurs d'alerte. C'est pour ça que pour moi, le sell broadcast en soi n'est pas une fin, c'est un moyen. Mmh. On va pouvoir aussi utiliser ces trois futurs réseaux numériques, DAB+, DVB-T2 pour la télévision numérique terrestre, évidemment le RDS, hein, puisque la FM sera concomitante au déploiement du DAB+, sur la radio numérique terrestre, et évidemment la 5G, qui seront de super supports sur des événements culturels, politiques et sportifs qui nous attendent. Toulouse est une place forte de l'Ovalie. Oui. La Coupe du Monde de rugby sera d'ailleurs l'un des premiers événements où on devra s'illustrer avec brio sur notre capacité à prendre soin des personnes qui assisteront à ces compétitions.
Alors, il y a un standard européen qui est donc l'European Public Warning System, connu sous le nom EU Alert. L'article 110 de l'European Electronic Communication Code stipule que tous les pays membres de l'Union doivent avoir un système opérationnel d'ici juin 2022 en SMSCB. Ouais, mais la France, j'ai l'impression que ça n'a pas avancé.
Alors, je vais... C'est pas à moi de m'exprimer évidemment à la place des services de l'État. Je vais quand même me permettre de faire un petit point d'actualité. Cet article 110 a été transposé déjà dans le code français. Donc au premier ou deuxième trimestre, soit au mois d'avril, faut que je reprenne mes notes, mais au mois d'avril, ça a été transposé. Donc déjà, on a un cadre légal évidemment qui d'ici au 21 juin 2022 obligera, permettra aux opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi aux services de l'État, d'alerter les populations. Ce qui est certain, c'est que les services de l'État et les opérateurs travaillent d'arrache-pied sur ce chantier d'infrastructure. Parce que là, il ne s'agit pas juste d'appuyer sur un bouton. Il faut vraiment garantir que l'émetteur de l'alerte qui est régalien, donc il s'agit d'une autorité préfectorale, d'une autorité politique, un maire, un préfet de zone, un membre du gouvernement, donc premier ministre, président de la République, qui va donner cette alerte. Donc il faut bien garantir, éviter des fausses alertes, que l'émetteur est légitime, que la chaîne de transmission l'est aussi, et qu'évidemment, en bout de chaîne, les opérateurs, ils puissent transmettre sur leurs antennes relais ces différents messages qui seront reçus sur les terminaux mobiles des citoyens. Je peux te garantir que les services de l'État travaillent très dur sur ce sujet-là et je profite d'ailleurs de l'antenne pour les saluer et saluer aussi leur forte implication. Je travaille avec eux, je suis associé à ces travaux-là depuis plusieurs semaines et ils travaillent très dur, crois-moi. Donc, si ça peut te rassurer...
Ça me rassure, oui, parce qu'on avait plutôt des signaux inverses hein, quand on se penchait un peu dessus. Hein.
C'est un peu tout le paradoxe de ma position en tant que hacker, c'est que je suis un ancien fonctionnaire. Et parfois, malheureusement, quand on est tenu et on doit être discret, on est un peu entre le marteau et l'enclume quand on est à la place de ces agents du service public qui travaillent sur ces sujets-là. C'est qu'il y a le marteau étatique, c'est-à-dire qu'à chaque catastrophe, on se pose la question de l'alerte, et t'as l'enclume citoyenne... qui dit que ça va pas assez vite. Et c'est vrai, on aurait pu aller plus vite sur ce dossier-là, mais les services de l'État, ils travaillent très dur en ce moment avec les opérateurs et les équipes techniques des opérateurs. Maintenant, ceci étant dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des événements sportifs. Donc le premier, c'est la Coupe du Monde de rugby. On a un deuxième grand événement sportif qui seront les JO 2024 avec des épreuves nautiques à Tiaupo, à Tahiti. Et à Marseille, donc le surf à Tiaupo. Et donc, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on est dans ce cas des épreuves nautiques, dans deux zones potentiellement impactées par des tsunamis et ou, on l'a vu cet été, par des feux de forêt. Et donc, c'est très important sur la période où vont se dérouler ces différentes épreuves sportives, évidemment, qu'on soit à la hauteur du pays que l'on est. On est un grand pays, moderne, donc il faut qu'on ait un système d'alerte à la hauteur de nos infrastructures, et bien évidemment des enjeux. Et donc ces deux événements-là sont bien en tête des services de l'État pour être prêts, évidemment, pour les Français, mais aussi pour tous les étrangers qui viendront et que l'on va devoir, évidemment, accueillir et protéger comme il se doit. Donc ça, c'est pour le point légal. On a une transposition, des travaux en cours, ce qui ne nous exempte pas, comme je le disais tout à l'heure sur le DAB+, et tu fais bien de citer l'article 110. Donc le premier paragraphe, effectivement, impose la mise en œuvre de ce système d'alerte au 21 juin 2022. Et quand on lit le deuxième paragraphe, nonobstant ces systèmes d'alerte par téléphonie mobile, il faut aussi imaginer, prévoir, anticiper que d'autres moyens d'alerte doivent être utilisés. Donc On peut penser évidemment rapidement aux sirènes, mais comme je le disais tout à l'heure, on a deux autres réseaux numériques grand public sur lesquels il va falloir aussi anticiper, imaginer, innover des moyens d'alerte des populations.
On va y revenir justement. Le système de sirènes en fait en France, on l'a vu dans une précédente émission, a été rénové lors du plan SAIP. Mais le plan SAIP n'a pas fait que des bonnes choses. Et je pense notamment aux applications mobiles SAIP. Quand tu en as entendu parler, quelle a été ta réaction immédiate et franche? Un fausse palme ou un « oh ben il y en a un qui a bien vendu sa solution ».
Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. J'ai essayé d'être bienveillant.
Oui, parce qu'à l'époque, quand même, tu étais déjà connu. Et si je me souviens bien, tu avais fait une interview dans Libération, si je me trompe.
Tout à fait.
Où tu avais déballé sur le cœur exactement tout ce qu'on voyait, quoi.
Exactement. En gros, à l'époque, ce que j'avais dit, c'est que ça peut paraître une bonne idée de faire une application. Et il y a des pays qui ont développé des applications pour alerter leur population. Mais ça reste un complément. Les États-Unis l'ont fait, hein. Ils ont déployé du cell broadcast et en même temps fait une application ready.gov qui permet d'avoir une checklist de ce que l'on doit prévoir en situation de crise, en période cyclonique, etc. Donc, l'application en soi n'est pas mauvaise, mais on met la charrue avant les bœufs parce qu'avant de penser application, il faut penser infrastructure. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique et spontané de déployer et de développer une application mobile. Mais avant ça, il faut parcourir toute la couche OSI. Et donc, il faut penser au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. Et donc, on a un certain nombre de... C'est la beauté d'Internet. Et c'est un peu ma frustration parfois quand je parle de ces sujets-là. C'est qu'on se rend compte souvent qu'on parle à des ingénieurs ou à des techniciens qui n'ont pas forcément une culture technique de ce qu'est Internet et qui vont foncer tête baissée sur la mise en œuvre d'une application. Là, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a pris le sujet par le bon bout. On peut toujours mieux faire, hein. Attention, aucun système d'alerte n'est parfait. On va forcément avoir des trous dans la raquette. Ce qui est important, c'est que concomitamment au déploiement d'une application, d'une infrastructure d'alerte, d'un protocole d'alerte, etc., on puisse impliquer les populations. Parce que c'est aussi ça le problème. On a remis un rapport récent à Barbara Pompili sur la culture du risque. C'est qu'on aura beau développer et utiliser des technologies qui sont très belles, hein, qui permettent de faire énormément de choses, si les populations ne sont pas impliquées dans cette compréhension du risque, dans cette conscience du risque, et évidemment le fait que cette population joue son propre rôle, tout ça ne sert à rien. Et on l'a vécu avec les Gilets jaunes. On rappelle que le début du conflit, c'est quand même une loi sur la protection du climat. On l'a vécu avec le Covid, avec des mouvements contre la vaccination, contre le masque, etc. On a des populations aujourd'hui, même devant l'inéluctable, qui seront contre le fait qu'on leur sauve la vie. On le voit bien à chaque inondation. À chaque tsunami, à chaque séisme, on a des personnes qui sont réfractaires à la minimisation ou en tout cas à l'évacuation, au confinement ou aux consignes qui viennent de l'État. Donc, pour revenir à ta question sur 2016, et c'est ce à quoi je me suis vraiment appliqué depuis, il y a tout un travail de fond à mener sur les systèmes d'alerte pour convaincre évidemment les opérateurs de téléphonie mobile. Donc là, c'est bon, ils ont compris. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Ouais. Convaincre les membres du gouvernement, pareil, nos députés, nos sénateurs. On ne peut pas leur reprocher d'être hors sol et en même temps ne pas leur expliquer en long, en large et en travers quels sont les tenants aboutissants en fait de ces questions-là, de ces problématiques-là. Nos télédiffuseurs, nos radiodiffuseurs. Et donc là, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai répondu volontiers à ton interview, à ta sollicitation, c'est que tout le monde a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas être trop vindicatif par rapport à 2016, parce qu'il y a en effet eu des progrès. Bon, on peut toujours mieux faire, hein, encore une fois. Et que je parle du futur. Je parlais de deux gros événements sportifs. On va avoir un automne peut-être compliqué. On ne sait pas. On a eu de grosses inondations à la Vésubie et la Royale l'année dernière. On a eu des feux de forêt un peu sérieux à la Londe des Morts cet été. Donc on sait qu'on aura des périodes compliquées dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et donc on a une opportunité avec le début de la présidence européenne, hein, de la France, de montrer l'exemple et d'impliquer les populations d'ici à mars 2022. Alors pourquoi mars 2022? Parce que c'est la prochaine édition de Caribwave. Et que Caribou Wave, c'est un très bon exemple, en fait, de manière d'impliquer les populations à jouer leur propre rôle. Et pour prendre un exemple un peu moins inatteignable, pour moi, le Japon est un mauvais exemple pour nous latins parce que ce sont les meilleurs élèves de la classe et que...
ils sont impliqués, sécurité... ils l'ont tous les ans.
Voilà.
Ils les ont tous les ans. D'ailleurs, ça commence à être
c'est même presque mensuel.
Ça commence à être la situation. Ça commence à être la saison des cyclones, donc ils sont motivés, quoi.
Voilà. Voilà, c'est martial. Au Japon, ces questions-là, elles sont martiales. J'aimerais plutôt prendre l'exemple du Chili, qui a vraiment, avec ONEMI, qui est en fait l'équivalent de la sécurité civile là-bas, de l'agence qui s'occupe de la sécurité civile, organisé à l'époque, cette dizaine d'années en arrière, un site qui s'appelle Familia Preparada. Et ils ont vraiment articulé, pour parler de bonnes pratiques et pourquoi les applications mobiles ou les sites internet ne sont pas forcément une mauvaise idée, une fois que l'infrastructure d'alerte est déployée, ils ont vraiment articulé la problématique de la culture du risque autour de la cellule familiale. Et donc, on a, sur ces sites de l'ONMI, des questions, où est-ce que j'habite, où travaille papa, où travaille maman. Et en fonction de ces réponses-là, où est-ce que je suis à l'école, où est l'établissement scolaire de mon frère, de ma sœur, c'est vraiment orienté vers l'enfant. Le résultat, c'est une checklist à faire qu'on peut imprimer en PDF et qu'on peut fixer au réfrigérateur. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que on a le réflexe numérique, c'est normal, on est des geeks, on est des technophiles, mais parfois le papier, quand il n'y a pas de courant, je vois tes questions futures arriver, quand on n'a pas de courant, le papier, ben c'est quand même pas mal. L'analogique, c'est aussi pas mal, et c'est important en fait, comme ça, de manière quotidienne, journalière, d'avoir un plan familial de mise en sûreté, ça s'appelle un PFMS, en français.
D'accord.
Qui permet au niveau de la cellule familiale de définir les lieux de rencontre, les endroits où on va stocker l'eau, la nourriture, les différentes procédures que l'on doit appliquer à l'échelle d'une famille pour pouvoir faire face à une crise majeure.
C'est extrêmement intéressant du coup parce qu'effectivement là tu montes littéralement le niveau justement sur l'éducation à la gestion de crise au niveau justement de l'école et du collège. Mais je vais revenir au SMS CB. À l'époque, le gouvernement français avait justifié en 2016 que le SMS CB n'a été intégré dans les iPhones qu'en 2012 et que donc ça justifiait qu'on ne s'y intéresse pas. Alors je sais qu'Apple est lent sur les standards, moi je peste tous les jours sur Safari, c'est une horreur comme navigateur web, mais quand même. Et le gouvernement avait aussi justifié que le SMS CB n'était pas encore compatible avec la 4G en 2016. Sérieusement, c'est grave, docteur ?
Oui, ça fait partie des obstacles.
Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est-à-dire que le fait que
non,
c'était...
Non, c'était pas vrai.
Ah, d'accord.
Non, c'était pas vrai. Alors, j'ai tout eu dans cette période-là, au niveau politique, au niveau des opérateurs, au niveau des cabinets des différents décideurs. J'ai eu toutes les raisons de ne pas faire en utilisant cette méthode-là. Il y a eu les opérateurs qui voulaient faire payer du SMS à l'unité, et donc du coup, évidemment, c'est plus rentable, c'est traçable, c'est facturable. On a eu effectivement, oui, mais la norme 4G ne permet pas de transporter le cell broadcast. Bref, on a vraiment tout eu pour ne pas faire, et sur des sujets comme ça, c'est mortel.
J'ai un service juridique d'un prestataire opérateur mobile qui m'a dit que en fait, le principal problème, c'est que l'État ne voulait pas mettre en place de leur côté un guichet unique, mais qu'il y ait un guichet pour chacune des préfectures, sous-préfectures et tout ça, et que ça faisait trop d'interlocuteurs pour gérer le SAV.
Oui, mais à un moment, je veux dire, on gère bien la santé des Français, on gère bien un certain nombre d'impératifs, on a... Et c'est d'ailleurs un des reproches que font aujourd'hui certains élus écologistes ou certains citoyens, c'est que à jouer à ça, on a l'impression que les réseaux de téléphonie mobile ne servent qu'au divertissement. Mmh. Et c'est mortel pour nous qui sommes des technophiles et qui sommes impliqués dans ces questions-là.
Oui, enfin c'est mortel tout court. Hein.
Ah oui, complètement. Parce qu'on a, si justement dans cette période difficile et vu les enjeux que l'on va devoir relever... un besoin impérieux du numérique dans la gestion des risques et dans la gestion des crises qui vont survenir bientôt. Et effectivement, ça a été vraiment de ma part du militantisme et je suis heureux d'avoir rencontré des ingénieurs télécoms, d'avoir eu dans la main, et je l'ai encore, je suis en train d'enregistrer cette émission au campus de l'espace à Vernon, sur un site CVS au seuil haut. La connexion elle passe par un kit Starlink, parce que je me suis vraiment dans les conditions de catastrophe, si on peut dire, si jamais ça devait me toucher à l'endroit où j'habite, hein. Et c'est important qu'en temps de paix, on puisse imaginer toutes les solutions possibles et imaginables pour s'en sortir, pour communiquer. Et pour revenir à 2016, donc l'année où j'ai écrit cet article dans Libération, j'ai une petite entreprise française qui s'appelle Amarisoft qui m'a gentiment prêté, que j'ai encore dans mon bureau ici, une antenne relais 4G qui m'a permis de démontrer à Marie-Galante, en Guadeloupe, pendant un exercice de tsunami, eh bien que ce protocole fonctionnait et que non seulement il fonctionnait et qu'il était opportun, qu'il était disponible sur Android. Les années suivantes, j'ai démontré que c'était disponible sur iPhone. Et donc aujourd'hui, à chaque nouveau millésime d'Android, chaque mise à jour et même au niveau de chaque constructeur, je fais des tests. Donc là, je peux te le dire même en exclusivité. On va dans une boutique de téléphonie mobile bientôt, que je vais révéler bientôt, tester des dizaines de téléphones à la fois.
Plus ceux des voisins.
On va vraiment équiper ces téléphones dans cette boutique de cartes SIM de test. Si les téléphones des voisins sonnent aussi, ben c'est tant mieux. Ça voudra dire qu'on a réussi aussi à faire baver, déborder cette alerte sur des téléphones de personnes qui sont dans la cellule adjacente. Et l'objectif, c'est d'aller bien plus loin que ce clivage Google-Apple. C'est de montrer que chaque marque, chaque millésime, chaque version d'Android, chaque version d'iOS, ben, reçoit correctement et transmet correctement cette alerte. Alors, il y a la transmission texte avec le bon encodage des caractères. Il y a la transmission sonore pour les personnes malvoyantes qui ne vont pas forcément voir et pouvoir lire ces messages. Donc ça, c'est très important. Les nouvelles versions d'Android ont injecté la synthèse vocale. Donc le message va être lu de manière automatique par le téléphone. Et enfin, on a vu avec l'arrivée d'Android 11, on a des pictogrammes qui permettent aux personnes qui ne savent pas lire, donc on voit bien que ce protocole s'améliore d'année en année, de pouvoir comprendre à quels dangers ils sont exposés. Et donc effectivement, quand on a des problèmes d'encodage de caractère, quand on a des problèmes d'alphabet, parce qu'il faut translittérer, donc il faut traduire l'alerte, évidemment, dans la langue de la personne qui est exposée. Et la traduction, elle implique parfois une translittération, donc une traduction dans l'alphabet de la langue en question, du chinois, du japonais, du cyrillique pour les Russes, de l'arabe, pouvoir avoir cette alerte dans la langue qui va bien. Et c'est toute cette phase-là qu'il faut anticiper dès aujourd'hui, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, à savoir qu'on va avoir des événements sportifs avec des étrangers, évidemment en France, mais aussi pour l'accessibilité de l'alerte, puisque on n'est pas tous égaux, malheureusement, par rapport à ces téléphones mobiles, et que les personnes à mobilité réduite et les personnes avec des difficultés cognitives ont besoin aussi d'accéder, comme tout un chacun, à cette alerte.
La France a finalement utilisé le mailing par un SMS standard pour informer la population sur le coronavirus. C'était au printemps 2020. Pourquoi et en quoi est-ce moins efficace que le SMS CIBI ?
Le SMS a la particularité, hein, le SMS standard, d'être séquentiel. C'est-à-dire que quand on va avoir une grande quantité de SMS envoyés, ben on va envoyer à un serveur SMS les numéros de téléphone auxquels le message doit être envoyé, et tout cela va se faire de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'on va envoyer les SMS par paquet de 500, 1000, 10 000, 100 000 sur les meilleures machines, hein. Et vous imaginez très bien que quand on doit faire ça à l'échelle des 70, 80, 90 millions de cartes SIM françaises, eh ben, il y a quelqu'un qui va, s'il est dans le haut de la pile, recevoir le message immédiatement, d'autres au bout d'une heure, d'autres au bout de deux heures, et ainsi de suite. On a des gens qui ont reçu les SMS le lendemain, voire le surlendemain. Sur des crise à cinétique rapide où on doit demander à des gens d'évacuer dans la minute, voire, je vais reprendre un exemple tout simple, quand on a sur le TWS, sur le SMS Cell Broadcast, une transmission d'alerte, on a 3 à 5 secondes de latence avant l'arrivée de l'onde sismique. Alors, évidemment, pas à l'épicentre, mais il faut bien comprendre que dans l'Oregon, aux États-Unis et au Japon, les infrastructures réseau sont capables de détecter et de transmettre une onde sismique, une alerte sismique, pour que les personnes les plus éloignées de l'épicentre, mais quand même impactées, puissent avoir 3 à 5 secondes pour se mettre en sûreté. Donc, on se rend bien compte que là, le SMS classique, séquentiel, ne peut pas répondre à ces problématiques de cinétique rapide, des inondations, des crues, des épisodes cévenols dans le sud de la France, des épisodes tropicaux dans les zones tropicales, où on peut avoir des cours d'eau qui peuvent avoir leur débit multiplié par plusieurs centaines en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Et donc, on ne peut pas utiliser cette méthodologie-là pour pouvoir répondre à des problématiques d'alerte en cinétique rapide. Le deuxième problème qu'on a eu l'année dernière, c'est que ces SMS envoyés ont engorgé les réseaux des opérateurs parce que certains avaient des accusés réception. Donc, on va avoir une messagerie qui va déjà être saturée en rafale pour émettre le SMS, mais saturée en retour sur les accusés de réception. Donc, pour les messageries qui étaient mal réglées, je peux vous garantir que quelques opérateurs ont eu des sueurs froides sur les retours de ces SMS, sur l'accusé réception qui était parfois demandé et qui, en retour, saturait les messageries. Et enfin, dernier problème, il faut aussi tenir compte du risque cyber. Donc, en guide de bonne pratique, on a eu un souci sur cette alerte-là, c'est que il y avait une URL dans le message qui a été très vite été utilisé pour du phishing et du hameçonnage,
oui,
pour pouvoir évidemment arnaquer des personnes qui n'auraient pas une hygiène numérique ou une culture du risque cyber. Et donc cette URL dans le message d'alerte a été très vite réutilisée par des criminels. Donc, on voit bien que sur ce dernier risque-là, ça peut arriver aussi en cell broadcast, hein, attention. Mais c'est aussi de nos erreurs. C'est pour ça que je parle beaucoup au futur. C'est aussi de ces erreurs-là, que ce soit l'application SAIP, que ce soit cette campagne d'alerte SMS classique, que ce soit les mouvements de défiance citoyens. Ce sont aussi de ces erreurs-là et de ces contraintes-là qu'il faut qu'on apprenne pour pouvoir avoir, dans les mois qui viennent, une très bonne politique en matière d'alerte des populations.
Mmh. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Gaël Musquet, alias Radzias, de l'association Hackers Against Natural Disasters, pour parler désastres, réseaux mobiles et avalanches de SMS. Quelques jours après la catastrophe AZF à Toulouse, j'étais parti au Japon et j'ai littéralement halluciné sur l'usage des messages textes courts, broadcast, archi-localisés, puisque donc l'ami qui m'accompagnait, on est rentré dans une grande gare à Tokyo et immédiatement, on a reçu un message sur son feature phone qui lui disait « Les trains en partance, sur tel quai, tel train, sur tel quai, tel train, etc. » C'était en 2001. Moi, j'en suis tombé des nues. Je connaissais un petit peu les possibilités, mais je savais pas que c'était exploité à ce niveau-là. Qu'as-tu vu d'autre comme usage ?
Sur la norme dont je parle, dont on parle, elle est en permanence évolution sur proposition des États et proposition aussi des opérateurs de téléphonie mobile. Et effectivement, la fonctionnalité dont tu parles, qui est plutôt à usage commercial, ben, quand elle est utilisée comme ça, ben, c'est super. Au Brésil, je peux t'avouer qu'on a vu naître aussi dans la même période du spam cell broadcast où effectivement, dès que tu passais à côté d'un magasin, t'étais littéralement spammé d'offres commerciales. Donc on a même
on a eu du spamming par Bluetooth à une époque, ouais. J'imagine ce que ça doit être dégâts avec du CB.
Voilà, et donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, hein, et donc les fabricants de téléphones et développeurs de systèmes d'exploitation ont mis en place d'ailleurs des systèmes de silencieux pour ce type d'alerte dite commerciale. Et donc, comme je le détaillais précédemment, moi, ce que j'ai surtout vu apparaître, c'est la complémentarité entre les réseaux téléphonie mobile et d'autres réseaux broadcast. En fait, en gros, on a des obligations, par exemple en Corée ou en Indonésie, que les opérateurs de téléphonie mobile puissent, au travers donc des équipements les UI, hein, donc comme les téléphones mobiles, qu'au niveau même des puces de ces téléphones mobiles, on ait la radio qui soit activée. Là, on parle vraiment de réseau radiophonique, hein, DAB+ ou FM, que cette puce soit activée et qu'elle puisse permettre, en cas de chute des réseaux téléphonie mobile, prendre leur relais d'alerte.
Là, il y a un autre problème. Il y a plus un problème d'ailleurs économique qui est que effectivement, il y a très 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 peu de téléphones qui proposent, ne serait-ce que les récepteurs FM. Aucun téléphone vendu actuel en Europe capable de capter le DAB+. Mais là, c'est une autre problématique qu'on a déjà traité d'ailleurs.
Complètement. Et donc du coup, c'est vrai que à l'échelle des empires, c'est un peu caricatural quand je dis ça, mais quand on regarde l'empire japonais, américain, européen, russe, on a une culture du risque en fait qui permet de manière hyper pragmatique d'être très réactif sur ces sujets-là. Il faut vraiment qu'au niveau de l'Europe, on arrive à. Tu as raison. C'est aussi la très bonne échelle pour le faire. D'ailleurs, l'Union européenne n'en s'en est pas privée. Le 17 décembre 2018, hein, puisque le règlement européen, l'article 110, il date du 17 décembre 2018 quand même. Hein. Mmh. Donc il faut vraiment en permanence, et des associations font du lobbying là-dessus, je fais partie des personnes, des citoyens qui sont régulièrement consultés sur ces questions-là, il faut effectivement arriver à utiliser ces différents réseaux alternatifs pour pouvoir diffuser l'alerte. Pour répondre encore plus précisément à ta question sur les différentes fonctionnalités, on a maintenant le geofencing, c'est-à-dire qu'on va être capable sur un ou plusieurs polygones, sur un rayon, un périmètre particulier, pouvoir émettre l'alerte de manière extrêmement chirurgicale. Donc ça permet, contrairement à ce que faisait le cell broadcast dans les premiers temps, en 2G notamment, d'éviter que toute la cellule ne soit alertée. Donc au début du cell broadcast, dès qu'on était dans une cellule qui diffuse, on recevait l'alerte. Aujourd'hui, on est à une échelle plus fine. On peut vraiment, de manière chirurgicale, à l'échelle d'un pâté de maison, recevoir cette alerte sur à peu près une centaine de mètres de rayon, entre guillemets. On est capable aujourd'hui de vraiment circonscrire l'émission de l'alerte. Ça c'est la première fonction.
Je savais pas que ça avait été mis en place.
Oui, on a des groupes de travail hein, qui en permanence permettent de mettre en œuvre ce type de nouvelles fonctionnalités du protocole. Donc c'est dire à quel point le retard qui a été pris peut être vite rattrapé, mais à quel point aussi il est vital que l'Europe se saisisse aussi de ces questions et qu'on soit force de proposition et qu'on soit pas toujours dans le dernier wagon du train en la matière, d'autant plus qu'on a l'ETSI sur notre sol. Donc c'est quand même un peu paradoxal, par vraiment de cordonnier mal chaussé là. Il faut vraiment qu'on arrive à se saisir et que l'alerte des populations soit vue comme quelque chose de moderne, comme quelque chose d'innovant, comme quelque chose d'impératif, parce qu'on sera tous, ainsi que nos familles, victimes un jour d'un incident. Et donc, on a tous intérêt, développeurs, intégrateurs, radioamateurs, peu importe, on a tous intérêt à participer aux réflexions sur ces sujets-là. L'autre fonctionnalité, c'est la fonction transit et échange. Alors, on peut recevoir l'alerte à l'échelle d'une cellule, mais il se peut, par exemple, que la cellule soit éteinte ou que on ait un problème de réception radio. Donc, l'antenne relais va diffuser l'alerte et dès qu'on va rentrer, tant qu'on est hors du périmètre indiqué, le téléphone ne va pas sonner. Quand on va rentrer, on peut imaginer ça sur une autoroute, hein, c'est exactement ce qui s'est passé au moment d'AZF. C'est-à-dire qu'au moment où, là, ça a été brutal, mais on peut imaginer qu'après l'explosion, on puisse prévenir les personnes qui sont sur l'autoroute, qui sont en route, qui se dirigent vers la zone. Eh ben, dès qu'elles arrivent dans le périmètre de danger ou d'explosion, eh ben, elles puissent recevoir une préalerte ou une alerte leur disant « Attention, vous pénétrez ou vous allez pénétrer dans une zone qui est en proie à un danger. » Donc, typiquement, ce qui s'est passé pour Lubrizol, on aurait pu, par exemple, dessiner des périmètres dans lesquels on va interdire ou déconseiller des personnes de rentrer Et donc ça, c'est aussi une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec les dernières mises à jour du Cell Broadcast. Mmh. On a enfin les supports des alphabets. Donc ça, c'est des choses aussi qui s'améliorent avec le temps. Les différents niveaux d'alerte dont j'ai parlé précédemment, donc qui permettent aussi d'avoir une granularité en fait en matière d'urgence et aussi de prise en compte. On a aussi la répétitivité de l'alerte. Est-ce qu'on va rappeler toutes les minutes, toutes les 10 minutes, toutes les heures qu'on a un problème ou qu'il va y avoir un problème? Donc là, on est sur des crises plutôt acinétiques moyennes, donc des ouragans qui vont arriver dans quelques heures à quelques jours. Donc on voit que au fur et à mesure que Mère Nature nous fait des misères et qu'on a aussi des incidents, on est en capacité de diffuser sur des canaux qui sont appropriés. Si tu le permets, je vais quand même refaire une petite marche arrière sur les protocoles.
Ouais, vas-y.
On a un protocole qui s'appelle le CAP, donc que la France a choisi d'ailleurs. Hein, donc ça c'est un des points positifs au niveau français. Le CAP fait partie donc des options pour la transmission de l'alerte. Ça s'appelle Common Alerting Protocol.
Mmh.
Ce CAP, c'est une norme qui permet en XML d'encapsuler, de décrire un incident. C'est une norme, c'est génial. C'est une norme Oasis, donc on peut aller vraiment piocher dans cette norme pour pouvoir transmettre l'alerte. Et là, je trahis pas de secret, évidemment, en la matière. Donc, les développeurs et les personnes qui ont envie de déployer ou développer des applications mobiles là-dessus, sentez-vous libre. C'est un très bon exemple, d'ailleurs, de la FIMA aux États-Unis, qui est l'agence fédérale qui gère les crises. On a un certain nombre d'entreprises qui sont labellisées par la FIMA pour produire et digérer ces flux CAP dans le cadre d'applications ou d'API. Donc déjà, ceux qui veulent prendre de l'avance d'ici au 21 juin 2022, faites-vous plaisir. Le CAP, c'est vraiment le protocole qui va être utilisé pour pouvoir transmettre des alertes. Il faut bien imaginer qu'une alerte peut être hyper locale, dans le cas d'une ville, d'une métropole, d'un département. Mais dans le cadre de Lubrizol, par exemple, on voit très bien que l'alerte aurait pu dépasser la région Normandie, elle l'a même dépassée, puisque le nuage de fumée s'est étendu à la région nord, et même au nord de l'Europe, à la Belgique et aux Pays-Bas. Donc on voit bien que l'interopérabilité de l'alerte, il faut aussi y penser, qu'on n'est pas juste nous concernés, on a le même problème évidemment avec le nuque, avec les problèmes nucléaires. Un danger nucléaire n'impacte pas juste la région ou la sous-région où se trouve la centrale. Donc ça c'est le premier point technique en matière de, et même pour la culture générale, en matière de transport d'alerte, Common Alerting Protocol, CAP. Je pousse, moi de mon côté, le transport de cette alerte, puisque l'objectif évidemment du Cell Broadcast, c'est d'envoyer un message d'alerte. Et donc, quand on regarde la couche OSI, on se rend bien compte qu'il faut transporter cette alerte. Pour la transporter, cette alerte, j'encourage. Et là, c'est un message. C'est le hacker développeur qui parle. Le hacker, surtout, radioamateur, pardon. Pas développeur, parce que je me considère pas comme un développeur. J'encourage, pour aller plus loin, d'utiliser, comme le permet l'Internet, un protocole adapté. Pour de la messagerie, quand on veut transférer des mails, on utilise SMTP, IMAP, POP3. Et bien pour la messagerie, c'est pareil. On a, pour de la messagerie instantanée, un protocole idéal pour ça, que j'adore et que j'affectionne, qui s'appelle XMPP, donc pour Extensible Messaging and Presence Protocol, sur lequel on a une extension qui s'appelle la XEP-0127, qui est dédiée au transport de l'alerte et à la distribution de l'alerte CAP. C'est juste à travers ces messages-là, quand tu me poses la question des fonctionnalités de l'alerte Cell Broadcast, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, les intégrateurs et les constructeurs de téléphones une téléphonie mobile utilisent déjà ces protocoles, que les I-Note B, les G-Note B, en fait, en bout de chaîne, sont compatibles avec ces protocoles. Et donc, on a, de bout en bout, la possibilité de conserver, avec de l'authentification, du chiffrement, la capacité de transporter de manière complètement sécurisée, sans rupture de protocole, une alerte de manière complètement sécurisée. De nombreux pays ont fait ces choix-là. On peut contester certains autres choix, mais en guise de bonne pratique, plutôt que de réinventer la roue, j'encourage fortement les industriels qui ont envie, en fait, de prendre de l'avance ou s'impliquer dans les mois à venir sur ces questions-là, à utiliser des protocoles d'Internet, hein, pour pouvoir transporter sur les différentes couches du modèle OSI ces alertes de la manière la plus sécurisée, la plus efficace possible, et qu'on n'ait pas un déploiement suboptimal, comme on a pu le connaître par le passé, sur ces questions d'alerte, hein, pouvoir transmettre ces alertes de la manière la plus efficace possible, ces alertes à destination des populations.
On va revenir au Japon. Ils sont capables de prévoir un tremblement de terre plusieurs dizaines de secondes avant qu'il n'arrive et de l'annoncer sur les téléphones et à la télé. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs lors du tremblement de terre de Tohoku en mars 2011. Comme quoi, regarder un débat politique au Sénat peut vous sauver la vie. Est-ce que toi, justement, tu as fait l'expérience d'alerte réelle ? Comment on réagit dans ce cas-là ? On se dit, putain, ça arrive, ou finalement, non, les automatismes sont partis direct.
Alors, j'ai eu l'occasion d'en vivre une alerte, en fait, au Japon aussi, pour le coup. Alors, c'était plus pour des glissements de terrain. Mmh. Et effectivement, il y a un côté sidérant du cell broadcast. C'est ce qui rend intéressant, d'ailleurs, cette techno, c'est que le téléphone, même s'il est en mode silencieux, va se mettre à sonner, vibrer avec une tonalité particulière. C'est pas la sonnerie de tous les jours, c'est pas la sonnerie et la petite musique douce qu'on a choisie pour se réveiller. C'est vraiment une sonnerie particulière. Alors, elles sont différentes sur iPhone et sur Android, mais elles restent normalisées. Et donc, quand on reçoit une alerte, on a une petite phase de sidération, ce qui est important. Passé la phase de sidération, on va avoir une phase d'observation. C'est-à-dire qu'on va regarder comment réagit son plus proche voisin. Et donc, quand on n'en a pas, des réflexes que l'on voit souvent dans les populations, hein, quand on regarde un peu les médias sociaux en gestion d'urgence, c'est qu'on va aller sur les réseaux sociaux et, pour se rassurer ou se faire peur, hein, malheureusement, pour confirmer que ce qu'on a bien ressenti ou ce qu'on a bien reçu est bien ce qu'on croit. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote. J'ai eu une alerte tsunami dans le Pacifique il y a quelques années. Et j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé sur Twitter, en DM, « La gendarmerie vient de nous dire d'évacuer par haut-parleur. Qu'est-ce qu'on fait ?» Évacuer les gens, mais faut évacuer. Et c'est bien, faut bien se rendre compte, en fait, et bien intégrer ces phénomènes de réassurance, en fait, quelque part, ou passer la phase de sidération où on va intégrer qu'on est en train d'être alerté. Le premier qui panique fait paniquer les autres. D'où l'intérêt, ben, de s'entraîner, de faire des exercices. Et donc c'est vraiment là-dessus que quand je parle d'alerte, je parle vraiment toujours du futur. Profiter de la fête des voisins qui va avoir lieu très bientôt pour pouvoir découvrir vos voisins, parce que ça sera peut-être la première personne que vous allez observer avant de commencer à détaler ou vous confiner. Ça sera peut-être la première personne sur laquelle vous allez pouvoir, voire devoir compter pour pouvoir vous sauver, ou faire l'inverse. Ou là, ça sera peut-être la première personne que vous aurez à sauver ou porter assistance. Ça sera la première personne avec laquelle vous devrez partager de la nourriture ou de l'eau potable, les premiers secours, d'où l'importance de garder un bon rapport avec son voisinage. Hein. Bon, là, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais quand on prend l'exemple de Paris, qui n'est pas une ville connue pour sa grande hospitalité et sa grande joie, je n'y voyais aucune critique de ma part. En 2015, quand il y a eu les attentats, on a vu à quel point les êtres humains, les Parisiens, étaient capables de grande solidarité avec, par exemple, le hashtag porte ouverte.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est bien la preuve. Et pareil au moment des inondations, hein, de la Seine en 2016-2018, on a eu des élans de solidarité, d'hébergement des Parisiens. Donc, c'est bien la preuve que, au moment où on a une épreuve difficile, dure, brutale, on est capable, y compris dans les villes dont on n'aurait pas pensé que c'était possible, on est capable de faire preuve d'empathie, de solidarité, et que le sauf qui peut chacun pour soi, n'est pas forcément la règle. La loi de la jungle, d'ailleurs, c'est plutôt de la symbiose plutôt que chacun contre soi. J'insiste vraiment là-dessus. C'est important que, avant même le déploiement de ce cell broadcast, on ait des exercices, qu'on ait des phases de réflexion, qu'on ait des élus qui jouent l'exercice avec leur population. Je prends un autre exemple qui est celui du Venezuela. Caribuevo Venezuela, tous les ans, c'est un peu le 14 juillet. On a toutes les forces de sécurité civile, les forces armées, les politiques, dans la rue, avec la population, qui tiennent la main des enfants, pour que, ben, on intègre bien le fait que, ben, l'élu n'est pas là uniquement pour récolter des voix et pour son personal branding, même si c'est une très belle opportunité de se faire bien voir de sa population, hein, ça fait partie aussi du jeu politique, mais que l'élu sera là aussi dans les moments difficiles pour pouvoir ben, être présent auprès de sa population. Ça fait aussi partie de la responsabilité de l'élu et c'est important qu'on puisse jouer dans les mois, semaines à venir avec les différents quartiers, les différents lieux de la ville, de nos villes, avec les populations et que ces populations puissent jouer leur propre rôle avec ces enregistrements sonores, par exemple, dans l'Art Cell Broadcast qui seront amenés à recevoir.
Gaël, tu es originaire de Guadeloupe. Y a-t-il actuellement de tels dispositifs de Early Alert, de SMSIB, d'annonces radio et télé, ou as-tu dû pousser pour qu'ils existent ? Est-ce que les autorités te consultent ? Est-ce qu'on vient te chercher ? Ou est-ce que finalement être fait chevalier de l'Ordre National du Mérite a aidé à faire bouger les choses ?
On est un pays qui fonctionne beaucoup à la reconnaissance des diplômes et des titres. Donc
non, pas possible.
Et donc du coup, effectivement, ma décoration a aidé à ce que ces messages soient, à défaut d'être entendus, écoutés. Donc c'est vrai que je suis, et je veux pas m'en plaindre, il faut aussi dire quand ça va. J'ai participé et je participe encore à différents travaux pour le déploiement de ces systèmes d'alerte. Je pousse énormément à ce que l'on utilise au maximum des logiciels libres, des standards libres pour favoriser l'interopérabilité, la bonne diffusion et la sécurité de la transmission de ces messages qui sont quand même critiques. Et pour revenir à mon île, la Guadeloupe, c'est aussi, comme je disais en introduction, j'ai commencé à tester ces systèmes-là dès 2010. Hein, le premier exercice Caribwave auquel j'ai participé, pardon, date de 2011. Et donc, ça me paraissait vraiment naturel d'appliquer ça d'abord chez moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Guadeloupe, c'est un petit territoire et que, pour l'avoir vécu récemment, c'est beaucoup plus simple d'y aller, moi de mon côté, avec des copains, des hackers, des développeurs, des journalistes, des blogueurs, des médecins, que de faire ça dans une grande métropole hexagonale ou dans une grande ville hexagonale où là, tout de suite, l'autorité ne voit pas forcément d'un bon œil l'action citoyenne. Donc ça, c'est la première raison de mon engagement. Évidemment, c'est parce que c'était chez moi, la Guadeloupe, mais aussi parce que j'aurais été beaucoup plus tranquille et j'ai été beaucoup plus tranquille de faire ça chez moi que de le faire sur un territoire hexagonal. L'autre raison, c'est que la Guadeloupe est un territoire avec la Caraïbe et les territoires ultramarins en proie à de nombreuses crises et on l'a vu pendant Irma. On a des contraintes énergétiques, climatiques, géologiques qui font que on se retrouvera, et on s'est retrouvé, très vite, très seul. Et très seul, c'est quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, sans que on puisse avoir de nouvelles, de renforts, de moyens. Après Irma, on a des personnes, et après Maria, qui a durement frappé la Dominique au sud de la Guadeloupe et Porto Rico, on a des élus en Guadeloupe qui sont restés quelques jours sans nouvelles de la préfecture.
Ah oui, quand même.
C'est bien la preuve que on est très vite très seul quand on est sur une île. Et donc, il est important de développer des réflexes, en fait, auprès des populations pour qu'elles puissent savoir quoi faire en matière de premier secours, de communication. Et d'ailleurs, on a vu naître un engouement pour le radioamateurisme après 2017. Je suis coprésident du Radio Club de Guadeloupe. J'ai passé ma licence de radioamateur en 2017. Et donc, on a vu à ce moment-là énormément de personnes, donc on a eu une dizaine de personnes hein, qui ont passé leur licence et qui ont eu leur licence de radioamateur en Guadeloupe, et on a vu la naissance aussi des QSO, hein, donc d'échanges radioamateurs, tous les dimanches à 10h en Guadeloupe. Idem à La Réunion, qui est un territoire exemplaire en la matière, hein, je salue d'ailleurs les deux radioclubs, le radioclub de Guadeloupe et l'ARA, qui est l'association des radioamateurs de La Réunion, parce que cette culture insulaire, on est sur une mini-planète, en fait, quand on est sur une île. Donc, on doit tout gérer. L'énergie, les ruptures de communication, l'Internet, les télécommunications, la radio, etc. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mmh. On a encore du travail pour convaincre les autorités qu'il faut que les populations jouent leur propre rôle. C'est très important. J'insiste vraiment là-dessus. On peut plus en 2021 faire un exercice en préfecture sans y associer. C'est pas évident. Je sais que ça demande du travail. Les préfectures, attention, n'ont pas toujours les moyens de le faire. Ça aussi, je tiens à le souligner. Mais c'est très important d'associer les comités de quartier, d'associer les municipalités, les associations, parce que ce seront les premiers relais de terrain. On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Les premiers élans de solidarité viennent aussi de la société civile. La société civile n'est pas là que pour manifester quand elle est contre. La majorité silencieuse est évidemment spontanément solidaire, propose énormément de solutions. Et donc, il faut intégrer les populations civiles, la société civile, dans les mécanismes de prévention. C'est vital, parce qu'on ne peut pas mettre un préfet, un soldat, un policier, un gendarme derrière chaque citoyen. C'est pas possible. Et donc, il est important qu'on renoue aussi avec les sciences citoyennes, avec, je parle par exemple du radioamateurisme. Peut-être faire une petite digression, mais on est une petite dizaine, 12, 13 000 radioamateurs aujourd'hui, ça fait un radioamateur pour 5, 6, 7 000 habitants en France. Aux États-Unis, ils sont 800 000, même s'il y a énormément de licenciés étrangers, hein, dont je fais partie, puisque j'ai une licence américaine, mais on est à un rapport d'un radioamateur pour quelques centaines d'habitants aux États-Unis. Ce qui prouve bien que face aux catastrophes naturelles, face aux incidents, on a aux États-Unis une culture de la radio qui est beaucoup plus ancrée dans les mœurs et dans la culture populaire. Et ces mouvements de défiance qui sont en train de naître et une mauvaise compréhension de ce qu'est un réseau radio, de ce qu'est la radio, on l'a vu sur Linky, on l'a vu sur la 5G, avec parfois des discours très populistes de la part de certains élus, ça témoigne aussi d'une incompréhension parfois des autorités de ce qu'est un réseau radio et de la fragilité des réseaux radio. Une antenne relais, ça n'a pas une durée de vie qu'une fois que l'électricité s'en est allée, au-delà de quelques dizaines de minutes, dans le meilleur des cas, quelques heures. Au-delà de quelques heures, malgré toutes les bonnes volontés, les groupes électrogènes qu'on peut avoir, on l'a vu à Saint-Martin, l'antenne relais tombe. Et si ce n'est pas l'antenne relais, c'est une partie du cœur réseau ou du sous-réseau. Et donc c'est important d'intégrer, et on le voit en ce moment avec les différents incendies de militants anti-ondes, quand on brûle une antenne relais, quand on brûle un émetteur radio, on met en danger, on l'a vu sur les pannes de numéros d'urgence, pour le coup de l'appel de, des appels montants, hein, l'appel d'urgence, le 18, le 112, le 15, le 17. Quand on a une panne aujourd'hui sur un réseau de télécommunications, on a des morts. Et donc, il faut bien intégrer le fait qu'une population bien protégée, qu'une population bien informée doit disposer de réseaux radio de qualité, entretenus avec des onduleurs dont on a remplacé régulièrement les batteries, avec des groupes électrogènes dont on a vérifié que les batteries démarreurs fonctionnent correctement, avec des onduleurs et des groupes électrogènes dont on a vérifié qu'il y avait du carburant, dont on a vérifié qu'ils n'étaient pas en zone inondable, qui n'étaient pas soumis à l'aléa feu. On a tout un certain nombre de règles qui peuvent paraître triviales quand on parle de réseaux d'autorité et de réseaux qui sont censés être protégés parce qu'ils sont considérés comme réseaux critiques, mais qui, dans la réalité, la réelle politique, ne le sont pas tant que ça. Et on l'a bien vu sur les inondations de la Seine, quand on a des sous-stations qui sont inondées, quand on a des fibres optiques qui sont emportées ou des sous-réseaux qui sont inondés, ou on a des coupures électriques parce qu'un transformateur a pris feu à proximité d'une gare, d'une grande gare parisienne, la gare Montparnasse pour la cité, eh bien on a très vite des sous-arrondissements ou des arrondissements de Paris qui se retrouvent en difficulté. Il faut bien intégrer tout ça, parce que fait électricité sur une île disparaît très vite. Et donc cette culture insulaire que j'ai et les exercices auxquels j'ai participé, les retours d'expérience que l'on fait, sont profitables pour les collectivités qui sont hexagonales et qui ne sont pas forcément rompues à ce type de rupture d'énergie ou de rupture globale des réseaux de télécommunications.
On parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé à Haïti cet été avec un séisme de magnitude 7,2, c'était le 14 août donc 2021, avec un bilan extrêmement lourd, plus de 9700 morts, 34 000 blessés. Est-ce que ce pays, l'un des pays les plus pauvres au monde, dispose d'un système d'alerte civile avant le tremblement de terre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse être mis en place?
Haïti, c'est à la fois c'est une terre d'innovation, vraiment. Parce que mes amis haïtiens font preuve d'une très grande résilience. Résilience politique, une grande instabilité politique. Je suis épaté, extrêmement fier de la qualité des communications qu'il y a eu en Haïti pendant la crise du coronavirus, qui ont surpassé ce que j'ai pu voir dans ma propre île, la Guadeloupe, ou dans l'île sœur de la Martinique, avec les réseaux sociaux de la ville de Port-au-Prince. Ça c'est le début, avec des opérateurs comme Digicel. Haïti ne dispose pas aujourd'hui d'un système en avance. C'est un pays qui n'a pas des capteurs déployés avec des réseaux automatisés en matière d'alerte. Néanmoins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un pays que je trouve plus résilient parfois que nos territoires français. Vraiment. Parce qu'ils ont... Il y a la misère, il y a un État qui est moins présent, et donc c'est vrai que...
Il y a une meilleure coopération entre les humains, quoi.
Oui, tout à fait. C'est pas simple, hein. Attention, hein, je n'idéalise pas du tout la situation haïtienne, au contraire, mais j'ai envie de parler de manière positive de ce territoire-là, parce que j'y ai vu le meilleur aussi, parfois le pire, mais surtout une grande capacité des Haïtiens à remettre en route des infrastructures, ou en tout cas une grande capacité à être autonome sur la résolution des problèmes. C'est un exemple parce que la fondation Digicel, qui est une fondation très active sur la question, hein, a des lauréats tous les ans et elle prime régulièrement des initiatives en matière de réseaux de télécommunications et d'utilisation des réseaux de télécommunications qui devraient faire exemple, en tout cas servir d'exemple au territoire français et au territoire francophone. On ne dispose pas d'alerte pour l'instant en avance de phase sur les séismes. On a un réseau d'alerte qui n'est pas parfait sur les tsunamis. Pour en parler et transposer ça en Guadeloupe, aujourd'hui, en cas d'alerte tsunami, même sur la Guadeloupe, on dépend énormément des États-Unis. Et pour transmettre l'alerte en Guadeloupe, le CENALT, le Centre National d'Alerte Tsunami, ne traite que les territoires hexagonaux. On n'a pas de point focal tsunami français en Guadeloupe. Donc ce sont les Américains qui transmettent aux autorités françaises les alertes. Mince. Pour l'instant, sur cette question-là, on n'est pas souverain.
Ah mince. Ah bah ça, je savais pas. Ouais.
Tu vois que même en Haïti, même en Guadeloupe, sur cette question-là, on n'est déjà pas souverain chez nous, en Guadeloupe, sur cette question-là, puisque l'alerte viendra des États-Unis. D'Hawaï, pour être en plus précis, l'organisation de l'alerte tsunami a été bien conçue aux États-Unis, puisque c'est le Pacific Tsunami Warning Center, le PTWC, qui transmet l'alerte pour l'océan Atlantique. Et l'inverse, c'est la côte Atlantique qui transmet l'alerte pour le Pacifique. Mmh. Ils ont inversé les points focaux pour éviter justement d'être impacté soi-même par l'alerte qu'on serait amené à transmettre nous-mêmes.
Ouais, un incident qui leur est arrivé en 57, c'est pour ça qu'ils avaient déménagé par exemple les prévisions continentales à Salt Lake City.
Tout à fait, on apprend énormément de ces erreurs et les anglo-saxons là-dessus sont parfois souvent plus pragmatiques que nous, même si c'est pas parfait et qu'il y a quand même des marges d'amélioration. Je suis pas de French bashing, mais voilà, sur ce point-là, encore aujourd'hui, que ce soit Haïti ou les autres territoires de la Caraïbe, on reste dépendant des Américains en matière d'alerte. Ce n'est pas de l'altruisme uniquement, hein. Ils savent aussi très bien exploiter nos territoires en alerte parce que, ils observent à quelle sauce on va être mangé nous, par mère nature, avant de savoir à quelle sauce, évidemment, les ouragans et les tsunamis vont les manger eux. Et qui énormément de menaces ont pour origine la Caraïbe. Et donc, ils ont tout intérêt à mettre des capteurs dans cette zone pour pouvoir anticiper de leur côté des menaces qui pourraient menacer potentiellement leur territoire.
On va revenir sur les alertes mobiles elles-mêmes. Est-ce qu'on a une statistique du nombre moyen de messages que l'on peut recevoir dans une année, par exemple si on est aux États-Unis ou dans les Caraïbes?
Alors, j'ai pas de statistiques en tête, même si on a pas mal de rapports. On a quand même quelques rapports, quelques enquêtes aussi Ce que je peux dire, c'est que les récents événements malheureux, on a eu des émeutes, on a eu des couvre-feux, on a eu le coronavirus, on a eu des ouragans. On a énormément de raisons aux États-Unis de recevoir les alertes enlèvement. On a énormément de raisons aux États-Unis de recevoir une alerte.
Mmh. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas risque de saturation et donc finalement réduire l'efficacité ?
Tout à fait. On a, dans le cadre des alertes enlèvement, des gens qui se lassent effectivement dans les grandes villes de recevoir régulièrement des alertes enlèvement. Donc ça, c'est le premier facteur de fatigue en matière d'alerte des populations. J'en ai beaucoup moins sur les autres crises, parce que là, il y a des enjeux vitaux qui touchent personnellement les populations. Donc c'est vrai que ça râle beaucoup moins quand on reçoit une alerte ouragan, une alerte séisme, une alerte glissement de terrain, que l'alerte Amber, qui est l'alerte enlèvement. En tout cas, les premières remontées de plaintes que j'ai eues concernaient essentiellement les alertes Amber. Ensuite, en matière d'alerte, sur la typologie, donc comme je le disais, on a différents types d'alertes. Ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est qu'on a énormément de mobilité du côté américain. Ce sont des gros rouleurs, ils roulent beaucoup. On a des grands espaces. Et donc, c'est vrai que culturellement, c'est un peuple qui a une culture du risque beaucoup plus forte que la nôtre. On n'a qu'à le voir sur les feux de forêt, on le voit sur les grands mouvements de population au moment des ouragans. Donc, c'est vrai que culturellement, il y a une discipline qui est beaucoup plus forte et qu'on retrouve de manière beaucoup plus prégnante en fait auprès de ces populations qui se plaignent beaucoup moins du coup d'être alertées régulièrement que de l'inverse.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Gaël Musquet alias Radia de l'association Hackers Against Natural Disasters pour parler désastres, réseaux mobiles et avalanches de messages. Gaël, une de tes casquettes concerne OpenStreetMap, le service de cartographie communautaire et Open Data, puisque tu es notamment le cofondateur de OpenStreetMap France. Ils sont hyper réactifs en cas de catastrophe naturelle, c'est hallucinant. Ils corrigent très vite les cartes des zones impactées avec des données ultra fraîches, voire même après désastre. Cela marche comment ? Ils ont une task force, des données satellitaires en toute première fraîcheur ?
Oui, complètement. En fait, la force d'OpenStreetMap, la première force d'OpenStreetMap, c'est sa communauté. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, des enfants, des personnes.
Et n'oublions pas des scripts en Python.
et aussi des scripts et pas qu'en Python qui digèrent en fait le territoire et qui en font une représentation graphique, littérale ou logique sur la cartographie des réseaux de transport, des réseaux des transports d'énergie, des réseaux fluviaux. Bon, on a vraiment dans la communauté OpenStreetMap, ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels cartographiques, qui font que on va effectivement avoir des personnes qui vont se concentrer sur une thématique, sur un territoire, sur une problématique, et qui vont être très réactifs. Donc c'est vrai que c'est une force. On a un certain nombre d'outils qui ont été développés par la Humanitarian OpenStreetMap Team, qui est une ONG américaine qui est concentrée effectivement sur les enjeux humanitaires, et qui collabore régulièrement de manière spontanée ou en faisant appel à contribution lors d'événements de crise ou de catastrophes diverses et variées dans le monde. Et ce qui fait cette réactivité-là, c'est surtout, on est en tant qu'être humain touché par le malheur des autres, et donc c'est vrai qu'on va être, en fonction des zones qui vont être touchées, plus ou moins impliqués, plus ou moins volontaires, sur ces zones-là pour contribuer. On l'a vu, OpenStreetMap France, l'association qui va bientôt fêter ses 10 ans d'ailleurs, cette année, donc le mois prochain, est pétrie en fait de bonne volonté, de talent. On l'a vu pendant la crise du coronavirus avec l'initiative Ça reste ouvert, qui permettait de cartographier les horaires d'ouverture des commerces essentiels, d'abord en France puis partout dans le monde. Donc c'est bien la preuve en fait que la technologie sans nous, elle est déjà belle, c'est beau. Enfin moi je prends plaisir à lire un certain nombre de documentations scientifiques et techniques de certains protocoles, mais c'est vrai que dans le cas d'OpenStreetMap, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de représenter nos territoires et c'est vraiment un bonheur d'avoir contribué et de continuer quand je le peux à cette formidable aventure humaine. On pourrait perdre toutes ces données, on pourrait encore compter sur des hommes, des femmes passionnés pour remonter les infrastructures et cartographier, recartographier nos territoires. Une des grandes forces aussi d'OpenStreetMap, faut pas l'oublier, c'est qu'on a souvent cartographié ces territoires en temps de paix. Et que donc on peut s'appuyer souvent sur de l'existant, en tout cas aujourd'hui, c'était pas forcément le cas en 2010, mais c'est de moins en moins vrai. Et notre tâche, elle consiste aujourd'hui en tant que contributeur, souvent à mettre à jour les cartes après une catastrophe, plutôt que de tout recréer comme on a pu le faire en Haïti, aux Philippines ou dans d'autres territoires du monde.
On va sortir un petit peu du scope de l'alerte civile, puisque dans le cadre de l'exercice Caraïbes Wave, tu as construit un réseau mobile minimaliste. Alors comment ça marche? Et est-ce que les sinistrés peuvent facilement s'y connecter?
Alors là, c'était vraiment l'utilisation de l'Inode B, en fait, hein, donc qui est une antenne relais 4G qui m'avait été mise à disposition. L'idée, ça a toujours été pour moi dans ces exercices-là de montrer vraiment en temps de paix, j'insiste vraiment sur ce mot-là, parce que ce sont des moments solennels, sérieux, on fait l'exercice sérieusement, mais ce sont des moments où on a pu aussi, entre potes, entre amis, entre voisins, de manière vraiment paisible, en rigolant, penser à des solutions. C'est vrai que le réseau mobile en question avait une très faible portée, donc c'est un cœur réseau complet hein, qui tient dans un PC fanless, donc sans ventilateur, qui était adapté tout à fait aux températures tropicales, avec un SSD, donc pour éviter les vibrations et les chocs dans le transport aérien. Bon, on a un peu pensé un peu à tout ça. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une bulle, une bulle tactique, hein, comme on peut l'avoir dans les forces sentinelles qui sont déployées dans des gares ou dans des lieux historiques, pour pouvoir communiquer déjà entre nous. Même principe qu'un téléphone, enfin qu'un réseau de téléphonie mobile classique, très faible puissance, on utilise la bande 7, donc la bande des 2,6 giga, pour éviter évidemment de perturber les réseaux de téléphonie mobile existants. On est quand même régi en France par un certain nombre de lois. Et la NFR que je salue d'ailleurs, veille au grain, l'ARCEP aussi que je salue, veille au grain. Nous, notre objectif, c'était plus de démontrer la faisabilité de l'alerte descendante, donc le cell broadcast, mais aussi les capacités de déployer rapidement des petits réseaux cellulaires, pour ensuite dériver assez vite sur des choses beaucoup plus pragmatiques et rustiques que sont les réseaux radioamateurs. Et c'est vrai que l'Indian Ocean Wave, donc qui est l'équivalent de Caraïbes Wave mais dans l'océan Indien, auquel j'ai participé en 2018, est une superbe illustration en fait de la mobilisation des réseaux radioamateurs, puisque tous les relais de la Réunion ont été utilisés jusqu'à l'île Maurice.
Wow.
Pour pouvoir relayer des alertes de tsunami auprès des réseaux radioamateurs, auprès des radioamateurs qui étaient chez eux dans leur voiture, qui amenaient leurs enfants à l'école et qui ont joué cet exercice. Et c'était très intéressant parce que ça permettait de voir de bout en bout, en faisant le tour de l'île de la Réunion, comment un message initial avait été transmis par une dizaine de personnes et comment il revenait, ce message. Est-ce qu'il avait été altéré? Est-ce qu'il avait été transmis de manière fidèle? Et en l'occurrence, on n'a pas eu d'incident majeur sur cet exercice-là. Et c'est d'ailleurs plus vers cette complémentarité des réseaux radioamateurs, des relais radioamateurs que je me dirige, plus que vers l'utilisation de réseaux téléphonie mobile qui sont éminemment complexes, surtout avec les nouvelles évolutions 5G, et qui, compte tenu de leur complexité, ben évidemment, sont proportionnellement fragiles, puisqu'un réseau de téléphonie, un réseau informatique, évidemment, est d'autant plus fragile qu'il est complexe. Complexe à mettre en œuvre, complexe à alimenter en énergie électrique, complexe à administrer, parce qu'il faut des personnes qui ont les compétences d'administration réseau et système, d'administration radio. Et donc, un relais radioamateur est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique à utiliser. On est vraiment sur une logique de broadcast, sur une logique presque de pair à pair, multi-pair même. Et c'est vraiment à cette complémentarité des réseaux radio que vraiment c'est à ça que j'encourage, plus qu'à la sacro-sainte cellule 4G ou 5G. Pour la petite histoire, après l'explosion de la ZF, ce sont ces radios amateurs qui ont été massivement utilisés pour pouvoir relier et transmettre des informations jusqu'à Paris. Idem en 1989, hein, ce sont ces réseaux radio amateurs qui ont permis en intercontinental de transmettre des messages d'alerte, des consignes et des remontées de moyens.
En fait, je posais la question justement d'un réseau mobile minimaliste et ad hoc parce que les opérateurs mobiles de certains pays qui ont été dévastés par des catastrophes se sont plaints que des réseaux avaient été montés par des ONG qui qualifient de sauvages, ce qui rajoutait plus de problèmes à leurs équipes et finalement à leurs clients et aux personnes qui étaient déjà impactées par la catastrophe. Est-ce que toi, ça, tu l'as vu ? Est-ce que maintenant, il y a des bonnes pratiques qui se font ou non ? C'est toujours un petit peu la jungle quand arrive la deuxième vague du désastre, le capitalisme de désastre.
Ben, je l'ai observé et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est aussi pour ça que je suis devenu radioamateur parce que on arrive très vite aux limites des puces et du matériel. Il faut l'alimenter, les bandes de fréquence sont réservées, les puissances sont limitées. Donc du coup, on a un mojo, hein, une doctrine en matière de radioamateur. C'est que when everything fails, il reste plus que les radioamateurs. Ce que j'ai observé en guise de bonne pratique, et donc pour éviter effectivement du brouillage ou des interférences radio sur des réseaux de cellulaires qui sont réservés aux opérateurs, c'est important, encore une fois, en temps de paix, d'avoir les plans de fréquence et de prévoir des plans de fréquence de crise qui permettent à des ONG, à des forces de sécurité civile, de déployer des réseaux cellulaires sur des fréquences dédiées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est important, comme je l'ai observé dans les forces armées, donc sur la base aérienne 105 où j'étais hébergé, d'avoir ce qu'on appelle des fréquenciers. Alors, dans les forces armées, on a des personnes, des soldats qui sont dédiés à la gestion des fréquences. Et donc, c'est important dans les ONG et dans les territoires d'avoir des fréquenciers. Donc là, en l'occurrence, en général, ce sont en France des agents de la NFR qui vont avoir autorité d'organiser le spectre radio en fonction des événements. Et c'est des choses qui se font régulièrement pour le Tour de France, pour le Salon du Bourget, pour Vivatech. On a eu, de la part de la NFR, qui est très réactive, très moderne, et pour le coup, un très bon exemple au niveau national et international, de bonnes pratiques, de déploiement de fréquenciers, de personnes dédiées à la gestion du spectre radio. Troisième point, encore une fois, sur la culture populaire et la culture scientifique et technique, sur la culture du risque, c'est important qu'on ait des personnes qui passent leur licence radioamateur. Parce que ce sont des responsabilités que l'on peut aussi avoir en tant que radioamateur, sécurité des biens et des personnes. On peut être amené à utiliser, déployer nos matériels pour pouvoir porter assistance aux populations, aux collectivités et assurer des liaisons. Et donc c'est vrai que ce qui se passe en Guadeloupe et à La Réunion régulièrement, toutes les semaines, ces radioamateurs s'entraînent. C'est comme du sport, c'est comme le footing, c'est comme le marathon. On le fait parce que on se fait plaisir, on prend plaisir à s'entraîner, on prend plaisir, on a un objectif, on se lance des défis. Et c'est vrai que au moment où on doit mettre en œuvre ces compétences-là, eh ben on a acquis des réflexes. On a un voisinage, on a des voisins, on a des collègues, on a des amis avec lesquels on peut communiquer et sur lesquels on peut compter au moment où on est impacté par une crise sur le territoire où l'on vit, où on travaille, où on est en vacances, ça peut aussi arriver. Pour pouvoir porter assistance aux collectivités qui ont besoin de nos compétences.
On a fait une interview donc au SDIS 31, donc chez les pompiers, ceux qui opèrent le numéro de téléphone court 18 et le 112, et on leur a demandé s'il y avait des gens à l'écoute de la fréquence 9, donc la fréquence CIBID qui est dédiée aux urgences. Il m'a dit non, on n'a personne. Formé en radio amateur, moi je veux bien, mais est-ce que aussi il ne faudrait pas revaloriser un petit peu aussi du côté de certains services publics ?
Alors oui. Complètement, et le meilleur moyen de faire ça, pour moi aujourd'hui, ce sont les hackerspaces, ce sont les radioclubs, ce sont les makerspaces, tous ces endroits...
Non mais je dis ça, j'ai un exemple concret quand même, un détective de police, McLean, qui se retrouvait à livrer par une pizza alors qu'il appelait les services de secours. Hein.
Oui bien sûr, et tu vois c'est...
tu vois la blague.
Oui bien sûr. Tu sais, ce qui est intéressant dans nos métiers, nos filières, et c'est là pour le coup, je prends ma casquette de hacker, c'est que ma frustration, là, je suis parrain d'une école d'ingénieurs au campus de l'espace. C'est vrai qu'on n'a pas forcément transmis ces savoirs, cette culture de la radio. J'aurais peut-être dû commencer par ça avec Gustave Ferrier qui, en 1902, part en Martinique après la plus grande catastrophe naturelle qu'a connue la France. à savoir l'éruption de la montagne Pelée. Gustave Ferrier, quand il est revenu et qu'il a posé ses émetteurs sur la tour Eiffel, en 1909, quand il a fallu démonter cette tour Eiffel, elle n'a pas été démontée parce que la tour Eiffel était devenue un émetteur radio et un moyen de se positionner, de transmettre l'heure, transmettre des informations qui permettent de calculer les longitudes. Stratégique, cette tour Eiffel n'a pas été détruite au moment des deux guerres, 14-18 et 39-45, parce que elle était stratégique. Il faut bien avoir conscience que cette culture radio, même si c'est encore un des médias les plus écoutés hein, aujourd'hui en France, on a très peu de pertes d'audience par rapport à la presse écrite ou à la télévision. La radio est l'un des rares médias qui tient encore le coup hein, par rapport à Internet. Et dont Internet d'ailleurs est un super relais, et parfois certains radioamateurs ne l'ont pas forcément toujours compris. Le numérique n'est pas une menace pour la radio, mais bien au contraire un complément à ce que l'on a pu imaginer faire en matière analogique. Et donc c'est important d'utiliser tous les ressorts dont on dispose pour pouvoir attirer des jeunes talents et intéresser les gens à cette culture du risque. Et tu as raison. Tu as raison. Il faut pouvoir, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir interviewé et de m'avoir donné la parole. Ça m'a permis de glisser quelques éléments de langage dans l'émission. J'invite vraiment tes auditeurs à s'intéresser. Il y a un côté historique. J'ai rapidement survolé l'histoire de Gustave Ferrier, qui est un grand monsieur de la radio. Il y a un côté technique. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter uniquement des conception et des feuilles techniques, des fiches techniques, des documentations techniques, des équipementiers, des constructeurs, de puces, etc. Et c'est vrai que les Raspberry Pi, les clés RTL-SDR, des clés radiologicielles, Linux, les logiciels libres, les Arduino, tous ces petits modules électroniques, toutes ces petites cartes électroniques, tous ces micro-ordinateurs de poche ont permis de démocratiser l'accès à la radio, à la fois en tant qu'écouteur, parce qu'on a une grande activité d'écoute en France, et je salue d'ailleurs les écouteurs qui ont leur lettre de noblesse, comme les radioamateurs, comme les cibistes, comme les PMRistes. On est tous des fans de radio, et il n'y a aucune raison qu'on se fasse la guerre et qu'on hiérarchise nos passions en matière de radio. Tout le monde a un rôle à jouer. Et donc c'est vrai qu'il faut utiliser ces petits fils. On a vécu, et la communauté radioamateur en est aussi le reflet, hein, des périodes tellement difficiles. Je parle du confinement, je parle des gilets jaunes, je parle des bonnets rouges, je parle des anti-vax, je parle des anti-ondes, je parle des anti-linky. On a toutes les raisons du monde de se foutre sur la gueule. Vraiment. C'est même un sport national. Pourquoi ne pas aussi profiter de ces sujets qui sont apolitiques? Enfin, le réchauffement climatique n'a pas de parti, n'a pas de bord politique. Le virus, le coronavirus n'a pas non plus... ne fait pas de distinguo hein, d'opinion sur la vaccination ou quoi que ce soit, sans vouloir parler de sujets clivants. Ce que je veux dire par là, c'est que on a énormément de sujets qui nous permettraient de nous rassembler. Et je suis triste parfois de voir certains élus jouer la carte de la division, parce que on a autant, sinon voire plus, de cartes de se rassembler. On a eu des gens qui ont fabriqué des masques, qui ont fabriqué des visières, qui ont fabriqué des respirateurs, qui ont construit et aidé à fabriquer des moyens de liaison au moment de la crise d'Irma, qui ont aidé à fabriquer des lampes, qui ont aidé à embarquer des réseaux Wi-Fi mobiles dans des avions, dans des aéroports pour distribuer et permettre à des gens de se reloger. Bref, j'ai vu tellement de mouvements de solidarité au moment des grandes crises qui nous ont touchés, que je suis parfois triste de voir à quel point on va être capable, d'un point de vue médiatique ou d'un point de vue politique, exploiter des sujets qui nous divisent. Je profite vraiment hein, de ton antenne et du temps que tu m'accordes pour justement évoquer ces voies, et tu as raison quand tu parles des SDIS, où on peut s'engager pour aider son prochain, pour aider nos communautés, pour aider nos forces de secours qui en ont besoin, qui s'épuisent. Je le vis en ce moment en Guadeloupe avec les équipes médicales qui vivent actuellement encore une crise compliquée. On a besoin vraiment de soutenir ces personnes qui donnent de leur temps, qui sacrifient parfois leur vie de famille pour pouvoir assister et porter assistance aux autres.
Gaël, on a parlé un petit peu des réseaux mobiles ad hoc d'urgence et tout ça. J'ai cru comprendre que tu testais le réseau mobile d'Elon Musk, mais que l'antenne n'aimait pas trop être en dehors de la plage, moins 30 degrés, plus 40 degrés.
Alors oui, d'ailleurs, l'enregistrement en ce moment, il se fait à travers cette station Starlink sur laquelle je travaille en ce moment, sur une vocation très particulière qui est le rétablissement des communications pour des populations isolées. Alors effectivement, pour l'instant, on a une fenêtre de couverture qui ne permet pas en zone tropicale d'avoir un service commercial de qualité, mais je peux te rassurer, dès qu'on aura des stations de contrôle au sol, donc qui permettront des relais en fait au sol, qui permettront d'assurer en zone tropicale une visibilité journalière suffisante, le réseau sera déployé en version bêta et ensuite déployé de manière commerciale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, ce que j'expérimente surtout ici, et on a pu le voir il y a quelques jours, c'est un réseau qui demande d'avoir une adresse déclarée. Donc là, en l'occurrence, ici au campus de l'espace, l'adresse déclarée, c'est celle du campus à Vernon. Et j'ai pu tester jusqu'à 20 km autour de cette adresse déclarée que le kit de connexion fonctionnait correctement, ce qui permet à des services de secours d'incendie, des SAMU, etc., de disposer d'une connexion IP faible latence. On est sur quelques dizaines de millisecondes.
Oui, c'est très haut débit. Il y a quasiment pas de blanc hein, entre nous, c'est impressionnant.
Voilà, donc tu vois que c'est par rapport à des connexions géostationnaires où on est à quelques centaines de millisecondes de latence, on est sur quelque chose de très intéressant en matière de couverture et en matière de système d'urgence en cas de communication rompue sur les réseaux traditionnels. Donc là, le kit, il est connecté à un onduleur, hein, mais je fais ça aussi sur des batteries de voitures sur lesquelles je connecte des panneaux solaires, des régulateurs et des onduleurs pure sinus, puisque tout ça est relié quand même en PoE, hein, donc Power Over Ethernet. C'est une norme en fait qui permet de transporter de l'énergie sur le câble réseau, sur le câble Ethernet. Et donc du coup, c'est monstrueux de simplicité à l'usage. Voilà, c'est une des choses que j'aimerais souligner. On est vraiment sur une logique très anglo-saxonne de l'usage des technologies. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit beau. Et donc on est vraiment là sur une démonstration de ce vers quoi on doit tendre. Alors, je vais rapidement mettre ma casquette d'astronome amateur. On a des problématiques de pollution lumineuse, là, pour le coup, puisque ces satellites, évidemment, polluent le ciel.
C'est assez problématique, oui. Les traces lumineuses qu'ils laissent, ça pose énormément de questions. Ouais.
On est en pleine crise en ce moment avec l'Australie et les États-Unis sur la vente de sous-marins. Petit appel aux élus qui nous écoutent. Si vous voulez avoir une pleine souveraineté numérique, le meilleur moyen de le faire, c'est qu'en terrestre, eh bien, on déploie rapidement des réseaux fibres, qu'on ait une vraie prise de conscience que le très haut débit, c'est une politique publique, souveraine, en matière de sécurité, sûreté des populations, alerte des populations. Ce que j'aimerais aussi rajouter sur cette question-là, c'est qu'on a des initiatives associatives qu'il faut aussi associer. Encore une fois, la société civile en la matière, et je fais un clin d'œil à Theta Neutral, à Scani 89, qui sont des associations qui œuvrent et qui ont beaucoup œuvré en la matière sur le déploiement de l'accès à Internet, créer son propre Internet, donc Rhizome du côté de Compiègne, Quantique Télécom du côté de Rouen, Broadband for Rural Network B4RN en Angleterre. Bref, on a énormément d'agriculteurs, de propriétaires forestiers, de collectivités et même d'ecclésiastiques en mettant à disposition des clochers d'églises qui ont su câbler, fibrer, relier par faisceau hertzien les zones rurales. Et donc la meilleure manière de concurrencer et de rendre ces réseaux d'accès à Internet par satellite peu concurrentiels, peu intéressants, eh ben c'est aussi d'être bon sur le segment sol, hein, en terrestre. Donc voilà, je retire ma casquette d'astronome amateur, je remets celle du hacker fan de réseaux de télécommunications et radio amateur. Je suis aussi en train de tester différents camouflages pour pouvoir rendre ces réseaux aussi résilients et de rajouter une forme de sécurité aussi hein, spatiale, puisque en optique, on en profite ici à Vernon pour observer ces différents satellites et pas que ceux de Starlink ou de OneWeb, pour que évidemment la navigation spatiale soit sûre en ayant une cartographie la plus fine et la plus fidèle possible grâce au territoire d'outre-mer, puisqu'on observe commence à observer un peu partout grâce au télescope que je suis en train de déployer sur la planète dans les territoires ultramarins, cette partie du ciel de la manière la plus fine et la plus régulière possible.
Gaël, je te remercie immensément pour ta disponibilité, pour avoir pris le temps, pour une émission double là-dessus sur le sujet dans notre série sur la situation critique. C'était un immense honneur de t'avoir eu sur notre micro. Et en tout cas, très sincèrement, au plaisir de se rencontrer.
Merci à toi.
Et bien à toi.
Merci, à très bientôt.